Va emmener dans une louange joyeuse et vraiment dans cette joie de la présence du Seigneur. Alors j'aimerais juste prier avant de commencer le message. Merci Saint-Esprit parce que tu es au milieu de nous et que tu veux nous enseigner au-delà de mes mots, que vraiment chacun puisse te comprendre dans son langage et dans la situation où il est, qu'il puisse comprendre ce qu'il doit comprendre. Amen. Alors ce matin, j'aimerais parler de la foi inébranlable. Alors je ne sais pas si on va y arriver jusque-là, mais en tout cas, je vais commencer. Et d'abord, est-ce que quelqu'un n'a pas encore entendu l'histoire du fermier américain ? Ici. Un, deux, trois, quatre. Vous faites semblant ou quoi ? Non, là, j'avais raconté déjà au moins deux fois l'histoire du fermier américain, donc pour les personnes qui ne l'ont pas encore entendu, je vais la répéter, et tant pis pour les autres. Donc c'est un fermier américain qui est venu en France, qui est venu visiter un de ses collègues français, un agriculteur, et cet agriculteur lui a fait visiter sa ferme. Et donc ils ont fait le tour un peu des champs, des bâtiments, et ensuite le fermier américain lui a dit: tu sais, chez moi aux États-Unis, il me faut une journée pour faire le tour de ma ferme en voiture. Et alors, le fermier français a dit: ah oui, moi aussi, j'avais déjà une voiture comme ça. Alors, j'aime bien raconter cette histoire parce que Dieu vient aussi chez nous, nous rendre visite sur notre petite ferme et il nous parle du royaume de Dieu. Il nous parle de la vie en abondance. Il dit: ouais, on connaît. Ouais. C'est fou ce que j'ai changé depuis que moi je vais à l'église. Je dis plus des gros mots. Disons qu'on a tendance à ramener cette immensité infinie du royaume de Dieu à notre petit niveau. Et on réduit ainsi l'impact que Dieu veut avoir dans nos vies. Alors je vous invite un peu au changement. Et ce qui est déstabilisant avec le changement, quand c'est Dieu qui opère, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que cela veut représenter. C'est qu'on a bien une idée du changement quand on devient chrétien, c'est que enfin Dieu va s'occuper de nous, il va pouvoir pour nos finances, il va s'occuper que notre vie aille bien. Et en fait, Dieu veut nous changer de fond en comble. Alors au début, on pense aussi que le changement, c'est: ah, il va changer mes enfants, il va changer ma femme, il va changer mon mari, il va changer mon patron, mon pasteur, etc. Et puis si ça ira mieux. Mais vraiment, Dieu veut entrer dans les profondeurs de nos vies et nous transformer. Alors, même quand on est dans le changement, on ne se rend pas compte qu'il y en aura encore d'autres qui vont venir. Et qu'en fait, on a vraiment besoin d'être transformé. Alors si j'ai envie de parler de la foi inébranlable, c'est que parfois on entend que dans les fins des temps, on ne pourra plus acheter ni vendre si on n'a pas la marque de la bête. Alors ça peut faire peur, et en même temps, on se dit: c'est pas grave, puisque le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Donc, ça ne va pas nous affecter. Mais en fait, la question, c'est: est-ce que je suis dans cette dimension du donner et recevoir ? Est-ce que je suis dans cette dimension de foi ? Parce qu'il faut admettre qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre avec une foi relativement légère, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on a un peu quand même des moyens, et puis même si on n'a pas des moyens, il y a l'État qui intervient pour nous aider, etc. Mais le jour où on doit juste compter sur Dieu, est-ce que notre foi elle est active à ce point-là? Donc c'est important de parler un peu de la foi. Alors j'aimerais lire un premier verset qu'on a une fois lu avec Alana, qui nous avait donné des textes à étudier en petits groupes. Donc il s'agit de 1 Corinthiens 13, verset 11. Et donc Ça ferait un merveilleux message pour un mariage. Donc ce verset 11, on connaît bien tout ce qui parle de l'amour, c'est pour ça qu'on le cite au mariage, mais dans ce verset 11, il est écrit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Et là, je me dis, c'est vrai que s'il y a moins d'enfants qui se mariaient, il y aurait peut-être moins de divorces aussi. Alors, c'est un verset qu'on ne cite jamais. En fait, j'ai fait attention à ce verset l'année dernière et ça a vraiment eu un impact dans ma vie parce que j'ai vraiment pris le temps d'identifier qu'est-ce qui était de l'enfant encore. Alors, nous étions en visite chez Thomas et Marion et nous étions invités pour le repas avec les beaux-parents et la belle famille. Et il y avait deux petits-enfants. Et vous voyez comment que c'est à l'apéritif, la table basse, les verres et les cacahuètes derrière les verres. Et donc, chaque fois qu'un enfant s'approche, tout le monde retient la respiration. Attention les verres! Et alors, on change les verres de place parce que c'est vraiment trop dangereux. Mais finalement, on ne trouve pas vraiment de solution. Et c'est normal, c'est des enfants. Ils n'ont pas intégré leur schéma corporel. Donc, je dis... Mais c'est normal, c'est ce qui fait de l'enfant. Mais par contre, si on transpose à notre état adulte ce genre de comportement, on se rend compte, mince, c'est vrai, ça arrive. Parfois j'ai des gestes qui peuvent blesser. Parfois j'ai des attitudes inadaptées. Et c'est bien aussi de pouvoir... demander pardon ou s'excuser. Donc ça, c'est des choses de l'enfant. Quand on lit les versets qui précèdent, qui parlent de l'amour, l'amour est patient, et c'est quelque chose qui n'est pas chez l'enfant, la patience. Quand vous partez en voyage et que quand vous êtes sorti du village, ils disent « On est bientôt arrivé !» Donc il y a cette notion de patience qui n'est pas là, et on peut, toutes ces images, on peut les transposer à notre situation d'adulte, comment nous réagissons. L'amour excuse tout, et l'amour croit tout. Donc toutes ces choses, on peut les transposer, on peut s'imaginer dans notre vie personnelle. Comment est-ce qu'on agit? Il y a aussi le célèbre « Maman !» Donc c'est un peu aussi cette... « Où tu as mis mes chaussettes ?» Et parfois, on a cette attitude aussi, en tant qu'adulte, avec Dieu. Et on crie à Dieu, non pas comme un enfant qui a confiance, mais « Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait longtemps, ça commence à être long, etc. » Aux enfants, on doit aussi leur dire d'éteindre la lumière, parce que ça a un coût. Et c'est bizarre que quand ils ont leur propre logement, ils commencent, ils viennent et ils demandent « Papa, combien vous payez d'électricité ?»« Ah, alors c'est normal, ok. » Donc, des choses de l'enfant qui disparaissent par elles-mêmes, mais toujours il y a des choses qui subsistent. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport au caractère et à la personnalité. Alors, je ne sais pas si c'est juste d'un point de vue psychologique, mais j'aime bien faire la différence. Je te regarde, Jérémy. Hein, j'aime bien faire la différence en tant que, on va dire, en tant qu'agriculteur. Hein, comme ça m'excuse un peu. C'est que, pour moi, le caractère, c'est quelque chose qu'on devient par notre éducation, par notre histoire. C'est quelque chose qu'on est devenu. On est devenu méchant, on est devenu bon, on est devenu gentil, on est devenu tout cela par notre histoire. Par contre, la personnalité, c'est ce que Dieu a créé en nous. Et j'aime bien faire cette différence parce que parfois on excuse des mauvaises habitudes ou des mauvaises façons d'être. Ah, c'est mon caractère. Donc, pas besoin de se repentir quelque part. Mais en fait, on n'a qu'un seul caractère qui nous va bien, c'est celui de Christ. Puisque dans, par exemple, Galates 3, au verset 27, il est dit « En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Et donc, que Dieu a créé en chacun de nous une personnalité différente. Il y en a qui aiment être seuls, il y en a qui aiment être entourés de personnes, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui ne parlent pas beaucoup, il y en a qui sont téméraires, il y en a qui sont prudents. Enfin, ce genre de choses, c'est Dieu qui a fait en nous parce qu'il a un but précis pour nous. Par contre, le caractère, je crois qu'on doit vraiment faire attention de ne pas nous excuser de certaines dérives sous prétexte qu'on est comme ça. Alors pour l'instant, je suis toujours dans l'introduction, hein, pour si jamais vous inquiétez. Ayez foi que ça va venir. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a ce verset où Jésus parle des 99 brebis et de la brebis perdue. Et quand il trouve la brebis perdue, il dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors je me pose parfois la question, est-ce qu'à partir du moment où on a été trouvé, est-ce qu'on va faire partie des 100 justes qui n'ont plus besoin de repentance? Et tout le monde est là, mais je crois vraiment que c'est une continuité. Il y a certaines traductions qui disent quelqu'un qui change de vie. Alors la repentance, c'est un changement de vie. Et je crois que c'est chaque fois que dans notre vie, on laisse le changement de Dieu s'opérer, il y a de la joie dans le ciel parce que quelqu'un a changé. Quelqu'un a laissé Dieu changer sa vie. Alors parlons maintenant de la foi. Alors on a dit que tout ce qui est de l'enfant, quand on devient adulte, on le laisse. Et maintenant, quand on devient adulte, on est un fils. Et j'ai vraiment réalisé ça d'une manière nouvelle l'année dernière, que je suis un fils, que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et l'enfant, il regarde en haut, il espère de l'aide d'en haut. Et le fils, il est assis en haut, mais il regarde en bas sur les situations de sa vie. C'est quelque chose de totalement différent d'un point de vue de la foi. J'ai déjà dit tout à l'heure que la vie chrétienne, ce n'est pas Dieu qui s'occupe de tout pour que notre vie aille bien. Mais quand on devient adulte, on se rend compte aussi qu'il y a deux royaumes qui se combattent. Et il y a le royaume de Satan, et Jésus en parle comme quelque chose de réel, ce n'est pas de la science-fiction, et il y a le royaume de Dieu. Et c'est important que nous, en tant qu'adultes, en tant que fils, assis avec Christ, nous comprenions que nous devons tenir une position. C'est que nous devons marcher dans la soumission à Dieu, et le diable fuira loin de nous. Alors, pour reprendre l'image du fermier, il y a un grand changement que j'ai compris dans ma vie. C'est que je pensais que Dieu allait bénir mon entreprise. Et ça, c'était ma vision de petit agriculteur français, enfin suisse-allemand pour être rigoureux. Mais je pensais à Dieu va bénir mon entreprise et alors vraiment je serai béni. Et en fait, j'ai compris que Dieu ne voulait pas bénir mon entreprise. Dieu voulait que moi je vienne dans son entreprise. Alors je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais moi en tant que fermier qui travaille la terre, je pensais juste que de mettre des principes bibliques en place, ça allait accorder la bénédiction de Dieu. Alors bien sûr, l'obéissance produit la bénédiction, mais dans cette dimension où on veut vraiment entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, Dieu demande à ce qu'on vienne dans son entreprise. Alors ça ne veut pas dire qu'on va changer de métier ou qu'on va vendre les terres, c'est pas forcément ça, mais simplement avoir une autre perspective sur ce que nous faisons. Alors, il y aura peut-être besoin de réfléchir un peu à ça pour le comprendre vraiment. Mais il y a une grande différence. Et j'aimerais lire là le verset 3 d'Éphésiens. 3, verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Si maintenant je réfléchis en termes de projet, en termes d'entreprise, en termes d'action, je vais d'abord fléchir les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom, et c'est-à-dire que tout ce qui est durable, tout ce qui vaut la peine, tout ce qui va résister quand on va passer par le feu, il n'y aura pas de chaume qui va résister, il n'y aura pas de bois. Tout cela vient du Père. Et donc je veux vraiment plier mes genoux devant le Père et recevoir de lui. Alors c'est vraiment un truc, je suis en plein dedans là, de chercher la volonté du Père pour la suite. Mais c'est vraiment important que nous réalisions qu'il y a quelque chose que le Père a prévu. Alors il y a des bonnes idées qui peuvent faire du bien, mais vraiment d'entrer dans ce que Dieu a prévu. Et ça va faire la différence. Alors, je continue et on va aller un peu plus loin par rapport à la foi. Donc toujours dans Éphésiens 3, dans les versets 16 et plus loin. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc là, il est question de la foi. C'est par la foi que Christ habite dans nos cœurs. Et vraiment cette foi qui nous permet de comprendre l'amour de Dieu, la largeur, la profondeur, etc. Et la fin de ce verset qui dit « Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu ». Et là, c'est ce genre de choses. Moi, je suis comme couché dans l'herbe en train de regarder les étoiles et je dis, c'est énorme. Alors je me dis quand même, si toute la plénitude de Dieu habite en moi, ça doit se voir, non? Alors, je me dis, Werner, est-ce qu'on te voit? Alors non pas pour me voir moi, mais est-ce que cette présence... Cette plénitude de la présence de Dieu en moi, est-ce qu'elle est visible? Et donc là, je me pose des questions par rapport à ma foi, et je me dis, est-ce que j'ai la foi? Alors je vous dis ça un peu dans le sens, pour faire réfléchir, hein, je ne remets pas en question votre foi, ni forcément me dire que je n'ai pas la foi, mais simplement pour nous aider à réfléchir. La plénitude de Dieu en nous. Alors si le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si toute la plénitude de Dieu nous remplit, comment est-ce qu'on va aborder les problèmes qu'on rencontre? Est-ce qu'on va être cet enfant qui crie « Seigneur, regarde ce qui se passe, c'est pas juste, c'est toujours à moi que ça arrive » Ou alors est-ce que nous allons prendre toute la mesure des ressources que nous avons en Dieu, pour aborder les problèmes? Alors j'ai envie de vous raconter encore une autre question, parce que ça, du style, là, toute la plénitude de Dieu. Il y a Daniel qui était en déportation, et qui a jeûné 21 jours, et l'ange est venu lui dire, dès le premier jour, on a entendu ta prière, mais il a fallu combattre, etc., pour arriver jusqu'à toi. Il a fallu l'aide d'un autre ange encore pour vaincre. Donc il a fallu 21 jours pour que Daniel obtienne sa réponse. Alors on se dit, 21 jours, Parfois, ça n'a pas l'air beaucoup hein, dans certaines situations qu'on vit. Après, je pose la question, mais si nous, parce que l'ange, là, il a dû traverser des couches spirituelles et tout, des puissances, mais si nous, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, combien de temps l'ange doit mettre pour venir jusqu'à nous, pour nous répondre? Alors, il y a toujours des luttes pour que ces choses qui sont acquises en Christ soient traduites sur la terre, on est d'accord. Il y a des royaumes qui se combattent. Mais dans mon cœur, combien de temps est-ce que je dois attendre pour savoir, oui, ça y est? C'est une question, hein. Je vous cherche un peu, moi, je me mets aussi au défi. Alors, la foi, il y a la foi émotionnelle. Alors, nous connaissons certainement tous cette foi, c'est qu'on est tous ensemble, on est à bloc et tout, et là, on peut renverser des montagnes, et après, on rentre à la maison, et puis il y a les enfants qui font la crise parce qu'on ne s'arrête pas à McDo, ou alors il y a le voisin qui s'est garé sur notre place de parking, enfin, tout ce genre de choses qui n'arrivent qu'aux autres, et finalement, déjà, on est un peu énervé, et alors, on a déjà un peu moins de foi. Ou alors, j'ai constaté aussi que parfois des gens qui sont un peu éloignés, le fait d'entendre un cantique qu'ils ont entendu dans leur enfance, la foi émotionnelle se remet un petit peu en mouvement. Ah ouais, finalement, moi aussi, je crois en Dieu, etc. Parfois, nous avons cette foi émotionnelle. Alors, peut-être ça peut parfois enclencher autre chose, mais ce n'est pas cette foi-là dont je parle, la foi inébranlable. Nous pouvons aussi avoir la foi de nos expériences. C'est-à-dire que nous abordons les situations avec notre vécu. Il y a un appel à la prière et on se dit, bon, j'y suis déjà allé 3 fois, mais peut-être qu'aujourd'hui ça va marcher. Alors ça, c'est la foi qui se base sur notre expérience. Ça fait quelques fois que ça n'a pas marché, donc peut-être qu'aujourd'hui, mais bon, c'est pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire, cette foi de nos expériences. Ou alors, ça peut être la foi de nos expériences positives. Tu as prié pour un malade, le malade était guéri. Là, maintenant, c'est bon. Maintenant, je suis the king. Et en fait, ce n'est pas ça non plus la foi inébranlable. Alors je vous raconte juste l'histoire du peuple d'Israël qui est allé renverser les murailles de Jéricho. Alors vous imaginez le truc, les murs qui tombent, tout le monde massacré. Et là, ils se disent, voilà, maintenant on sait que Dieu intervient. On sait que tous ces méchants, ils vont être détruits. Et alors ils repartent de cette expérience et ils disent, ah, c'est quoi la prochaine ville? Aïe! Je ne l'ai pas faite, c'est trop facile. Mais, donc, ils disent, ah, mais tranquille, tranquillou, on va dire, on ne va pas fatiguer tout le monde, on va y aller, il y a 3000 hommes, c'est bon, ça va être plié en moins de 2. Donc, ils y vont, 3000 hommes, et puis ils se font ratatiner, tout le monde qui s'enfuit comme des lapins. Et là, leur foi dans l'expérience. Mais, Seigneur, est-ce que c'est pour nous faire détruire par nos ennemis que tu nous as fait sortir d'Égypte? Donc là, du coup, tous les miracles précédents, ils ne comptent plus. Donc, la foi des expériences. Chaque fois, si nous voulons avancer dans la vie chrétienne, c'est vraiment important de revenir au début. Et le début, c'est la croix, le début, c'est notre intimité avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons eu une victoire que nous pouvons poursuivre à partir de cette victoire pour aller plus loin. Chaque fois, nous revenons. Là, le peuple aurait dû revenir à Gilgal, là où Dieu a fait le serment avec eux, là où Dieu les a libérés de l'esclavage en circoncisant tous les hommes. Mais vraiment, c'est important pour nous que chaque fois, nous revenions à notre intimité avec le Père, parce que toutes les situations ne sont pas pareilles, Et c'est pas parce qu'une fois nous avons vécu la victoire que la fois d'après ce sera pareil. Et de toujours mettre notre vie à disposition du Seigneur, nous placer sur l'autel, afin qu'il puisse aussi nous dire, voilà, il y a telle chose qu'il faudrait, laisser de côté, ou telle erreur que tu as faite qu'il faut réparer. Donc la foi inébranlable. Alors pour moi, la foi inébranlable, c'est relativement simple, parce que c'est pas la peine de se dire, je me concentre, est-ce que j'ai la foi là? Non, pas encore. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit se concentrer comme une espèce de yoga spirituel, mais tout simplement la foi inébranlable, c'est que je décide de croire ce que dit la parole de Dieu. Et quand je comprends ça, finalement, c'est relativement simple. Il n'y a pas besoin de faire de gymnastique pour dire « Ah, maintenant j'ai la foi ». Alors, je fais bien la différence avec le don de foi. C'est une foi qui, on va dire, nous tombe dessus. C'est quelque chose que Dieu nous donne pour une situation particulière où nous savons que c'est comme ça que ça va se passer et nous avons une foi extraordinaire pour une chose précise. Mais la foi inébranlable, celle de tous les jours, c'est de croire ce que la parole dit. Alors, ce que j'ai aussi essayé de faire, ou ce que je m'entraîne à faire, c'est de ne jamais dire quelque chose de contraire à la parole. Alors, je n'y arrive pas encore, mais quand même, quand on prie pour quelque chose et qu'on se dit « je puis tout par celui qui me fortifie », et après on rencontre un collègue, on dit « ah, c'est dur, hein, ben, je n'y arrive pas, non, mais... Tu vois encore ces nouvelles lois et tout, mais on va où et tout ? Enfin, ce genre de langage. Je dis non, non, ça c'est pas mon langage. Mon langage, c'est que je me confie en Dieu et c'est lui qui est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le jour où on ne pourra plus acheter ni vendre, on va marcher avec le donner-recevoir. C'est pas un souci. Donc, je vous encourage ce matin vraiment à faire cet exercice et. Quand on lit quelque chose, on le croit, on dit « c'est ça la vérité » et après on fait attention de ne pas parler dans l'autre sens. Et ça arrive vite dans les discussions. « Ah, aujourd'hui ça ne va pas du tout, je ne sais pas comment je vais y arriver. » Donc ce genre de choses, alors ce n'est pas une culpabilité que je jette sur vous, mais c'est simplement de faire attention à nos paroles. C'est de la bouche que sortent les paroles. De vie ou de mort. C'est au pouvoir de la langue. Alors j'aimerais utiliser aujourd'hui une image qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Par rapport à la foi. Est-ce que vous avez déjà vu des jeunes qui jouent à des consoles de jeux ? Il y en a aussi chez vous, là ? Alors ce qui est hallucinant avec les jeunes qui jouent aux consoles de jeux, sauf pour les excellents joueurs qui réussissent du premier coup. Mais ils commencent pas deux fois, pas trois fois, pas cinq fois, pas dix fois, ils commencent 20 fois jusqu'à ce qu'ils réussissent le niveau. Et pourquoi ils font ça? Pas parce qu'ils le sentent. Ouais, je le sens, je vais y arriver. C'est qu'ils savent qu'il y a un autre niveau. Donc, ils commencent jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau suivant. Et ainsi de suite, et ça peut prendre des jours. Ouais, t'es gentil, avec des heures. Mais c'est écrit dans le programme. Donc, ils vont recommencer, jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau. Ça nous parle au niveau de notre foi. Nous, on a peut-être prié deux fois, trois fois, après on se dit, bon, ça ne marche pas, donc on va faire autrement, quoi. Alors, est-ce que je suis prêt à prier, à continuellement proclamer la parole de Dieu sur mes situations, jusqu'à ce que je sois arrivé au niveau ? Après, ce que j'ai trouvé d'amusant aussi dans ce contexte des consoles de jeux, c'est qu'il y avait une fête de famille. Et là, j'ai un petit neveu. Il est allé chez un de ses cousins, plus grand. Il lui a dit... « Hey, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'aider parce que je suis bloqué à un niveau ? Je n'arrive pas à aller plus loin. » Alors le cousin, bien, ouais, ok, ben, je te montre. Et puis voilà, il a franchi le palier. Et ça nous parle aussi de notre vie d'église. Je dis, hey, cousin, là, je suis bloqué dans cette situation. Tu peux m'aider? Tu peux prier avec moi? Tu peux, peut-être dans ton expérience, tu as vécu quelque chose qui peut m'aider? Alors, je vous laisse cette image, hein. Ça parle aussi, même quand ça ne parle pas de champs et de tracteurs. Hein. Donc là, j'aimerais, si c'est possible, arrêter l'enregistrement.